Radio France Internationale, il est 13h en temps universel, 15h à Paris, 16h à Tel Aviv, une demi-heure de plus à Téhéran. Dans tous les cas, c'est l'heure d'un nouveau journal, celui de Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Nicolas Brousse, bonjour à tous. Dans l'actualité, les attaques entre Israël et l'Iran au lendemain de la vaste offensive lancée par l'État hébreu. L'armée israélienne mène actuellement des raids contre plusieurs sites. Elle affirme qu'elle dispose d'une liberté d'action aérienne de l'ouest de l'Iran jusqu'à Téhéran. Tout l'espace aérien iranien restera fermé jusqu'à nouvel ordre, de même que l'aéroport Ben-Gourion de Tel Aviv. En Israël, les sirènes d'alerte ont retenti, notamment à Tel Aviv et à Jérusalem, poussant les habitants à se précipiter dans des abris. Également dans l'actualité aux États-Unis, on manifeste dans de nombreuses villes contre la politique de Donald Trump. Et dans l'actualité économique, une opération majeure dans l'acier, l'américain US Steel passe sous le contrôle du japonais Nippon Steel. L'escalade tant redoutée au Moyen-Orient est en marche. L'attaque massive lancée vendredi par Israël contre l'Iran a été suivie de représailles. Le territoire israélien a été attaqué à coups notamment de salves de missiles. De sources israéliennes, environ 150 missiles balistiques tirés depuis hier en trois salves. L'Iran affirme que sont visées des bases et des installations militaires. La population israélienne vit au rythme des sirènes d'alerte et des appels à se réfugier. L'État hébreu déplore au moins 3 décès et 40 blessés. En Iran, il y a au moins 78 victimes. On a aussi appris ce matin que l'aéroport international de Ben-Gourion près de Tel Aviv resterait fermé jusqu'à nouvel ordre. Côté israélien, une deuxième journée d'opération militaire est en cours. L'armée a indiqué qu'elle lançait actuellement des raids contre plusieurs sites en Iran. Le point avec Guilhem Deltay.
Dès hier, avant même les représailles iraniennes, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, avait annoncé que les opérations de son pays dureraient plusieurs jours. Et l'aviation israélienne a donc mené de nouvelles frappes ce samedi. Selon les agences de presse iraniennes Fars et Mer, 4 provinces de l'ouest et du nord-ouest du pays ont été touchées. Les villes ciblées abritent des bases militaires importantes pour l'Iran. Les bombardements israéliens s'étaient aussi poursuivis dans la nuit. Des sites nucléaires à Isfahan et Fordo ont été visés. Mais l'armée dit aussi avoir touché des cibles militaires. Elle affirme qu'elle a notamment détruit des défenses aériennes dans la région de Téhéran, ainsi que des lanceurs de missiles sol-sol. Des dizaines d'entre eux, précise-t-elle. Dans un communiqué, son chef d'état-major a surprocédé conformément aux plans opérationnels. Dans ces menaces, Israël vise désormais la capitale iranienne, Téhéran. Les voies vers l'Iran ont été ouvertes et les chasseurs sont prêts à recommencer à frapper des cibles à Téhéran, indique le communiqué du chef d'état-major. Le ministre de la Défense promet même que la ville brûlera si, dit-il, le guide suprême iranien continue de tirer des missiles sur le front intérieur israélien.
Et cet après-midi, l'armée israélienne affirme qu'elle dispose d'une liberté d'action aérienne de l'ouest de l'Iran jusqu'à Téhéran. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence hier soir à New York. L'Iran a accusé les États-Unis d'être complices des attaques d'Israël, accusation rejetée par la diplomatie américaine. Les autres membres du Conseil ont appelé à la retenue dans la région. Dans ce cadre, Téhéran estime qu'il n'y a pas de sens à ce que soit maintenu les pourparlers avec les États-Unis sur son programme nucléaire. Un nouveau cycle devait se tenir demain dimanche dans le sultanat d'Oman. Direction maintenant l'Irak, pays qui depuis 2 ans veut rester à l'écart des conflits régionaux. Le gouvernement irakien est proche du pouvoir iranien. Il doit jongler entre ses liens avec Téhéran et avec les États-Unis, avec pour objectif tout sauf la guerre. Mais cette fois, les niveaux d'alerte sont passés au rouge. Explication de notre correspondante Marie-Charlotte Roupi.
Malgré quelques incidents isolés, l'Irak a échappé jusqu'à présent au bouleversement que subit la région depuis 2 ans. Le gouvernement irakien a adopté une position modérée, voire de médiateur, pour maintenir ses relations avec les États-Unis et l'Iran. Mais pour Ersan Eshamari, analyste politique irakien, cette posture fragile, presque artificielle, ne tient plus.
Le gouvernement tente de tenir le territoire irakien éloigné des conséquences du conflit. Il ne veut pas apparaître comme soutenant un camp contre un autre. Mais en réalité, ce sont les factions armées alliées au Premier ministre qui détiennent le pouvoir de décision en Irak. À présent, ils sont difficile pour ces factions de maintenir cette même position, la retenue.
En effet, les déclarations de ces factions armées proches de l'Iran ce vendredi se sont durcies. Elles défendront Téhéran. Et bien que certaines nuances disant vouloir éviter la déstabilisation de l'Irak, elles sont prêtes à se battre si l'escalade se poursuit. Ersan Eshamari.
À mon avis, l'Irak a rompu avec sa politique d'équilibre et apparaît désormais comme s'alignant davantage sur le camp iranien. C'est une phase, une véritable mise à l'épreuve.
Face à la poursuite des bombardements en Israël et en Iran, l'Irak se prépare à la possibilité d'être le prochain sur la liste. Marie-Charles Troupy, Bagdad, RFI.
Au deuxième jour de la confrontation Israël-Iran, à suivre sur RFI, l'émission spéciale géopolitique à 19h10, heure de Paris, et sur RFI.fr, le live blog de la rédaction Internet. Calme précaire aux États-Unis avant les manifestations prévues dans la journée dans l'ensemble du pays contre la politique de Donald Trump. Des opposants se réuniront sous le slogan « No kings, pas de rois ». Des manifestations sont prévues dans des dizaines de villes. On verra dans le même temps la grande parade militaire voulue par le président républicain pour les 250 ans de l'armée américaine. Donald Trump a voulu fêter en grand cet anniversaire qui tombe aussi le jour de ses 79 ans. Ce sont les 250 ans de l'armée américaine. Autre anniversaire, cette fois en Europe, les 40 ans de l'espace Schengen. Espace de libre circulation des personnes. À l'origine, il n'y avait que les trois pays du Benelux, l'Allemagne et la France. Aujourd'hui, l'espace Schengen compte 29 États membres. Une cérémonie a lieu à Luxembourg. Le China Labour Bulletin est une ONG basée à Hong Kong et qui, pendant plus de 30 ans, a défendu les droits des travailleurs. Elle vient d'annoncer l'arrêt de ses activités en raison de difficultés financières. Quelques heures après cette annonce, le site web était déjà inaccessible. Cette ONG rejoint les quelques 60 groupes de la société civile qui ont disparu à Hong Kong depuis 2020 et l'imposition par Pékin de la loi sur la sécurité nationale. Yelena Tomic a recueilli l'éclairage de Jean-Philippe Béja, sinologue et chercheur au CERI.
La fermeture du China Labour Bulletin est véritablement une nouvelle extrêmement triste pour à la fois l'avenir de la société civile à Hong Kong, mais aussi pour le mouvement ouvrier en Chine. C'est une des plus vieilles organisations qui a été créée en soutien aux ouvriers chinois. Elle a été créée en 1994 par un ancien fondateur du comité autonome des ouvriers de Tiananmen en 1989 et elle est installée à Hong Kong depuis 1994. C'est une organisation qui donne énormément d'informations sur l'évolution de la condition ouvrière en Chine, qui informe également sur les diverses luttes et qui a toujours fait très attention de ne pas remettre en question la direction du Parti communiste chinois et de ne jamais s'engager en termes de politique chinoise. Alors on se demande pourquoi un parti qui se présente comme l'avant-garde du prolétariat peut être inquiété par une telle organisation. Après la dissolution ou l'autodissolution d'une soixantaine d'organisations de la société civile à Hong Kong, cette fermeture apparaît comme un peu le dernier clou dans le cercueil de cette société civile hongkongaise qui faisait la spécificité de ce territoire.
Jean-Philippe Béja avec Yelena Tomic. Dans l'actualité économique, une opération majeure dans le secteur de la sidérurgie. Le géant japonais Nippon Steel salue un partenariat historique avec son rival américain US Steel. Donald Trump a donné son feu vert au rachat historique de la multinationale américaine intervenue après 18 mois de négociations. Nippon Steel va débourser un peu plus de 14 milliards de dollars. En Inde, avec un total d'au moins 279 morts, le bilan de l'accident de l'avion de la compagnie Air India jeudi s'est alourdi. Le Boeing 787 devait se rendre à Londres. Un crash qui est survenu peu avant l'ouverture du salon du Bourget, lundi, près de Paris. Le patron de Boeing a annulé sa visite. L'avionneur américain comptait sur ce rendez-vous majeur dans l'industrie aéronautique pour engranger de nouvelles commandes. Mais la conjoncture reste tout aussi difficile pour tout le secteur. Explication Agnieszka Kumor.
Si l'édition 2023 du salon a vu les commandes exploser après la parenthèse de la pandémie du Covid-19, l'édition de cette année se déroule dans le contexte de la guerre commerciale et du ralentissement de l'économie mondiale. Selon les experts, les perspectives sont très modérées pour les achats et les vols d'avions de ligne. De même, les droits de douane imposés par les États-Unis contribuent à l'incertitude ambiante. Les coûts explosent et les chaînes d'approvisionnement mondiales sont perturbées. Des compagnies aériennes comme Ryanair ou Delta ont d'ores et déjà mis en garde contre les annulations possibles de commandes si les prix continuent d'augmenter. En revanche, les commandes d'avions de chasse comme le Dassault Rafale seront suivies de plus près. Pareil pour le domaine spatial où les Européens Airbus ou Thales SA comptent concurrencer SpaceX d'Elon Musk.
Enfin, le sommet de l'ONU sur les océan est maintenant terminé. La principale annonce figurant dans les engagements de Nice est la prochaine entrée en vigueur du traité sur la haute mer, accord qui vise à mieux protéger les eaux internationales. Très bonne journée sur RFI, à suivre un jour au village.